Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce vendredi 26 février 2016. À l'issue de sa visite en RDC, le secrétaire général des Nations Unies a tenu une conférence de presse. Ban Ki-moon y a abordé la situation politique et sécuritaire en RDC, mais aussi l'ouverture de la conférence sur les investissements dans le secteur privé organisé par les Nations Unies. Nous parlerons ensuite de la CENI qui affirme avoir réceptionné 135 dossiers, cela à la fin du dépôt de candidature samedi dernier des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Et pour en parler, je reçois comme invité J.R. Mokolo. Bonsoir, chers confrères.
Oui, bonsoir Alain Irung Mouchige et surtout bon anniversaire Radio Okapi.
Merci, vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet de Kinshasa. Claude Molicho Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Alain Irung.
Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, également coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Dona Moussema, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir aux confrères Claude et J.R., mais aussi joyeux anniversaire à Radio Okapi.
Merci également, vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant de Bukavu et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Bienvenue à tous dans votre émission. Voyons comment la presse kinoise a abordé ces sujets que nous traitons ce soir dans cette revue de presse que nous présente Kéline Kouté.
Bonsoir. Le dialogue politique inclusif continue de défrayer la chronique. Les journaux parus cette semaine reviennent sur cette question qui divise la classe politique congolaise depuis plusieurs mois. La plupart des quotidiens donnent la position des Nations Unies, livrée par le secrétaire général Ban Ki-moon en visite à Kinshasa. RDC, Ban Ki-moon insiste sur le dialogue et crie la prospérité. Le dialogue doit unir. Ce dialogue doit être consensuel et inclusif. Le dialogue est une priorité pour une bonne gouvernance en RDC. Tout le monde est prêt pour le dialogue, a déclaré le secrétaire général de l'ONU en conférence de presse à Kinshasa. Ban Ki-moon séjourne en RDC depuis le 23 février, où il a participé à la conférence internationale sur l'investissement privé dans les Grands Lacs. Ban Ki-moon pour un dialogue inclusif, titre l'avenir. Le patron de l'ONU exhorte tous les acteurs politiques congolais à s'engager dans un dialogue politique constructif et à mettre les intérêts du peuple congolais devant des intérêts personnels. Il encourage toutes les parties prenantes à convenir pour un calendrier électoral consensuel, fait remarquer l'avenir. Dialogue inclusif, seule solution, renchérit le phare qui reprend le message de Ban Ki-moon aux Congolais. Interrogé sur le principal message adressé au peuple congolais qui observe un processus électoral grippé, Ban Ki-moon a affirmé être préoccupé par le retard intervenu dans le calendrier électoral, écrit le quotidien. De plus en plus, il y a des tensions concernant le troisième mandat du président Joseph Kabila. J'appelle toutes les parties à convenir sur le dialogue. Si le dialogue est conforme à la Constitution, il y a de l'apaisement. Fin de citation. Autre chapitre, élections gouverneurs et vice-gouverneurs. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé dimanche 21 février les résultats de l'opération d'inscription des candidatures au poste des gouverneurs des 21 nouvelles provinces de la RDC. On peut lire ceci sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Sur 135 dossiers déposés, le Haut-Katanga bat le record avec 16 candidatures enregistrées. Selon la CENI, la Mongala vient après le Haut-Katanga avec 10 candidatures réceptionnées, suivie de la Tchouapa avec 9. Au bas de l'échelle se trouve le Kasaï central qui compte seulement 2 candidats gouverneurs derrière le Kasaï qui en a 3. Sur 203 formulaires d'inscription des candidatures retirées, 135 dossiers des candidats ont été formellement déposés, dont 37 par les partis politiques, 18 par les recouvrements politiques et 80 par les indépendants.
Merci Kéline Kouté. J.R. Mokolo, vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet de Kinshasa. Avant d'aller plus loin, Radio Okapi a totalisé ce 25 février 2016, 14 ans, juste un mot.
En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous suivons depuis 14 ans la Radio Okapi. Et je crois que ça démontre que si les Congolais ont le moyen de travail, et ils travaillent de façon indépendante sur la liberté, ils sont en tout cas capables des merveilles. Et c'est ce que toute l'équipe de Radio Okapi est en train vraiment d'opérer. Et nous, moi, personnellement, je suis un fervent auditeur de Radio Okapi. Et beaucoup de gens aussi suivent Radio Okapi. Et la Radio Okapi est en train de combler pratiquement un vide. Un vide laissé par la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui est devenue pratiquement une radio institutionnelle, tout ça de propagande. et que c'est grâce à la radio Capi que les Congolais soient informés sur tout ce qui se passe au pays, en tout cas jusqu'au fin fond de la République. Et donc je crois que beaucoup de chapeaux à Radio Capi. Et nous espérons que, même si la mission des Nations Unies s'arrêtait un jour, qu'on puisse tout faire pour pérenniser cette œuvre qui est en train de contribuer grandement à l'information des Congolais et surtout à faire en sorte que les Congolais soient au courant de tout ce qui se passe dans le pays.
Claude Moulisho Kayembe, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, également coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire, également un commentaire sur les 14 ans de Radio Capi.
Vraiment, coup de chapeau à la Radio Capi. Vous savez, la Radio Capi est arrivée ici à République démocratique du Congo dans un contexte de crise et avec guerre, les pays étaient divisés et les Nations Unies sont venues à l'époque Monique et puis c'est Monisco et aujourd'hui la radio Capi a joué son rôle, est en train de jouer son rôle d'unifier, comme elle-même dit que c'est une radio de la paix, est en train de conscientiser les gens. On ne peut pas se lever un matin sans suivre la Radio Capi, c'est un travail appréciable. Et c'est une radio qui est venue concurrencer les autres radios comme la RTNC. La RTNC garde sa place, c'est une radio nationale. Mais Radio Capi aussi est venue concurrencer la RTNC. Et avec le principe de l'immédiateté, les deux radios sont en train de faire passer des messages, informer en temps réel le peuple congolais, pourquoi pas ceux qui sont à l'étranger de la République démocratique du Congo, et arriver à conscientiser, à resocialiser même la population dans différents domaines de la vie sociale.
Donna Moussema, vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant de Bukavu, et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Votre commentaire sur les 14 ans de Radio Capi.
Oui, c'est justement que je salue le travail abattu par Radio Capi pendant les 14 ans. Ça n'a pas été facile au début. Radio Capi, c'est une radio pratiquement qui joue le rôle de la radio nationale, au vu de sa couverture, au vu aussi de son professionnalisme, aussi au vu de tout le travail qu'il a abattu pendant les 14 ans. Radio Okapi nous a, nous, généralement les journalistes de l'intérieur, nous donnait de l'espoir, de la force, parce que des fois, il y a des informations qu'on ne pouvait pas diffuser, mais une fois diffusées par Radio Okapi, nous nous basons sur ces informations aussi pour appuyer nos éléments et pour appuyer nos journaux. Donc, c'est un travail de titan que vous abattez. Je salue tous les staff, je vous remercie. Et je vous prie d'aller toujours de l'avant, sinon c'est un travail appréciable qu'il faut saluer à juste valeur. Donc, joyeux anniversaire.
Merci Donna Moussema, puisque vous avez la parole, qui est le sujet qui fait l'actualité à Bukavu.
À Bukavu, la semaine est d'abord marquée par la promulgation d'inédits portant protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme pour la province du Sud Kivu. Et l'édit a été promulgué depuis le 19 février dernier. Un édit provincial qui est salué par les journalistes eux-mêmes ainsi que les organisations de la société civile au vu de tout le climat de sécurité dans lequel ces acteurs travaillent. Vous allez d'ailleurs vous rappeler que des journalistes ont été menacés ici. Ils sont quotidiennement menacés. D'autres ont été assassinés ici. On ne va pas les citer. Alors désormais, il y a un texte juridique qui est là. Il est dédié cet article, c'est vrai, il n'est pas encore, je dirais, un chèque en blanc, car il faut toujours être professionnel, mais c'est un texte qui souligne le rôle des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, leur droit à la liberté de réunion, d'expression, de communiquer librement des informations sur les droits de l'homme, de dénoncer, de critiquer l'action du pouvoir public. Ils peuvent donc aujourd'hui saisir les instances judiciaires compétentes en cas de violation de leurs droits. C'est un texte qui fait la U. Si tout le monde en parle, c'est la satisfaction dans les milieux de défense et de
promotion
des droits de l'homme.
Merci.
Notre actualité, si vous permettez.
Très rapidement, s'il vous plaît.
Les installations du gouvernorat qui sont à l'instant pris d'assaut par certains agents des services de l'État. Ils sont en sit-in depuis bientôt 2 semaines. Motif, ils réclament 7 mois d'arriéré salarial. Il s'agit d'un spectacle désolant. Ils sont venus aujourd'hui avec leurs épouses, leurs enfants pour, disent-ils, toucher le cœur du gouverneur Marcelin Tshishambo, qui promet heureusement de voir les voies et moyens pour juguler ce problème qui n'a que trop duré.
Merci Donna Moussema. Jérémo Kolo, un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est le 3e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quel bilan vous en dressez-vous très brièvement?
Oui, sur le plan, par exemple, des engagements à prendre par le pays voisin, bon, on note, par exemple, que rarement, on trouve des pays voisins qui soutiennent des rébellions pour combattre d'autres pays. Avec, par exemple, la neutralisation des M23, on se rend compte quand même que nos frontières commencent un peu à être sécurisées. Avec le Rwanda, avec l'Angola, il n'y a pas de problème. Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Mais c'est sur le plan interne que ça pose problème, je dirais, le bilan est mitigé. Parce que on a pris beaucoup d'engagements en termes, par exemple, de la réconciliation. Je veux prendre rien que ces volets
réconciliation. La réconciliation nationale.
Voilà. Nous avons organisé les concertations nationales en 2013. Et qui était censé en tout cas assurer la cohésion nationale, mais au sortir de ces concertations nationales, on a remarqué par exemple qu'un des partis qui avait participé à ces concertations nationales, le MSC, a eu des difficultés avec la création d'un doublon. Aujourd'hui, on se rend compte par exemple qu'il y a d'un côté les dialoguistes et d'autre côté ceux qui sont les anti-dialoguistes, les anti-dialogues. On se rend compte que sur le plan des droits, l'état des droits, ça pose problème, mais sur tous les volets état des droits. Vous avez vous-même suivi l'arrestation ou l'enlèvement d'un député national, Martin Faoulou, pris comme un vulgaire voleur des poules et jeté dans les installations militaires. Et jusqu'à maintenant, c'est bien privé. JP, téléphone, tout ça reste confisqué à cet endroit-là. Vous suivez même le secrétaire général des Nations Unies, même quand il est passé ici, il nous a rappelé aussi que les libertés publiques doivent être respectées. Rappelez-vous aussi des rapports, par exemple, des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme.
Et donc, en un mot, le bilan de l'accord cadre est mitigé.
Est mitigé parce que même les services de sécurité, leur réforme, ça pose problème.
Merci.
On était censé, par exemple, avoir une police civile non militarisée. Mais jusqu'à maintenant, nous avons des policiers qui utilisent des fusils d'assaut comme des militaires au front.
Merci, Claude
Molichaud.
Donc,
on a en tout cas beaucoup de choses à faire.
Claude Molichaud, un mot sur les 3 ans de l'accord cadre.
Oui, les 3 ans de l'accord cadre d'Addis Abeba, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et vous savez qu'aujourd'hui, les engagements pris par les 13 pays membres de la CIRGEL, aujourd'hui les choses avancent un peu. Hein. On commence à échanger sur le développement, la stabilité, la paix dans la sous-région, comme la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région de là qui vient de se tenir à
Kinshasa. On en parle d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, et il y a des échanges commerciaux entre les pays voisins dans la sous-région ou dans la région. Il y a également les chefs d'État qui se fréquentent. Il y a l'espoir aussi qui unit, on a vu au Rwanda, et l'engouement que les Rwandais ont manifesté lorsque nous on a gagné le Mali en finale. Ils étaient contents aussi.
Et sur une échelle de 5, vous donnez combien sur 5 par rapport
à... Moi, je peux donner la moitié, hein, c'est 5 sur 10. Hein. C'est-à-dire qu'il reste des choses à faire.
Des choses à faire. Merci, chers confrères. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Au terme de sa 5e visite en RDC, Ban Ki-moon a tenu une conférence de presse à Kinshasa. Plusieurs aspects y ont été abordés. Il s'agit entre autres de la situation politique et sécuritaire en RDC, mais aussi l'ouverture de la conférence sur les investissements dans le secteur privé organisée par les Nations Unies. Kevin Kouté pour les détails.
Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général de l'ONU a fait le bilan de sa visite en RDC. Ban Ki-moon a affirmé que la situation en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs reste au premier rang des priorités des Nations Unies. Pour lui, les Nations Unies se sont employées à s'acquitter du mieux possible de son mandat de protection des civils et de la promotion d'un dialogue politique ouvert. Parlons justement du dialogue. Ban Ki-moon exhorte l'ensemble de la classe politique congolaise à s'engager dans un dialogue inclusif afin de trouver un consensus pour des élections crédibles et apaisées. Il a condamné la restriction de la liberté d'expression en RDC et estime que le droit de l'homme doit être respecté en République démocratique du Congo. Concernant la situation sécuritaire en RDC, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité de l'annonce faite du renouvellement de la coopération entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre les EDF, les FDLR et les autres groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Il estime que les Nations Unies doivent améliorer l'assistance humanitaire, raison pour laquelle, a-t-il dit, un sommet humanitaire mondial sera organisé à Istanbul, en Turquie, au mois de mai prochain.
Merci Kevin Kouté. J.R. Mokolo, qu'est-ce que vous pensez de tous ces observateurs qui estiment que Ban Ki-moon a touché les véritables questions, les questions brûlantes de l'heure en RDC, notamment la question du dialogue, le respect des délais constitutionnels. Est-ce que c'est votre avis aussi?
Oui, tout à fait. Il est, je crois, venu répéter ce qui a été dit dans les communiqués conjoints signés par les Nations Unies, l'OIF, l'Union Européenne et l'Union Africaine, qu'il faut que la classe politique congolaise puisse se retrouver dans un dialogue pour trouver un consensus, et cela dans le respect de la Constitution. Et aussi la relever, par exemple, les questions des droits de l'homme, restrictions des libertés, tout ça. Je crois qu'il est revenu tout ce que nous savons ici. Mais ce qu'il a dit, je crois que c'est pas un dictat. Donc les uns et les autres ne sont pas obligés d'appliquer ce qu'il a dit, parce que la communauté internationale même a imposé des choses, par exemple, au Burundi. Et on a constaté que le président Nkurunziza est sourd. Donc je sais pas si, je ne suis pas convaincu qu'après l'arrivée de Ban Ki-moon, on puisse en tout cas apporter quelque chose de différent de ce qu'on a déjà connu, parce que on se rend compte, par exemple, de la dynamique de l'opposition est restée pratiquement campée sur ses positions. On a suivi le modérateur Joseph Olenkankoy dire, par exemple, que non, ils ont envoyé un message au président comme quoi après la fonction de président, il y a une vie, et qu'ils s'en tiennent aussi au délai constitutionnel. On a vu la majorité qui estime que non, il faut toujours ce dialogue-là. Donc, je pense que ça va être un peu difficile de voir
concilier tous les points de vue.
Oui, les points de vue. Donc, il a eu vraiment la tâche difficile. On s'est rendu compte qu'il a vraiment joué au diplomate, à l'équilibriste, parce qu'il a essayé de ménager pratiquement tout le monde. Je crois que ce qu'il nous a donné comme conseil, c'est un bon conseil. Parce que je suis étonné que nous sommes sous pratiquement assistants des Nations Unies depuis les années 98 avec la rébellion des RCD, MLC, tout ça. On a pris pratiquement un pacte républicain à San City. Nous avons fait une constitution et que cette constitution-là prévoit des élections qui ont été organisées en 2006, en 2011 et qu'on devait avoir des élections en 2016. Mais malheureusement, à cause de l'immaturité ou quoi, je ne sais pas, de la médiocrité de la classe politique congolaise, nous avons tout fait pour se comporter comme des étudiants à qui on donne une tâche à accomplir dans un délai bien déterminé, joue toujours à la prolongation, donc la procrastination. Des choses qu'on aurait dû faire hier, comme par exemple la révision du fichier électoral, comme par exemple le financement des élections, on ne l'a pas fait.
Donc en un mot, Ban Ki-moon n'a pas été entendu.
Bon, on verra si il a été entendu ou pas dans les prochains jours, mais je me rends compte que nous assistons en tout cas à un véritable langage de sourds, parce que d'un côté, tout a été fait pour que les élections ne se tiennent pas, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de résister au schéma de glissement entre les deux camps. Je ne sais pas comment on va trouver vraiment une commune mesure, à moins que quelqu'un vienne, je ne sais pas, du ciel pour taper du poing sur la table pour que les uns et les autres écoutent.
Et Claude Moulicho, Ban Ki-moon a exhorté la classe politique congolaise et la société civile à trouver un consensus pour organiser un dialogue inclusif, mais vous venez de suivre J.R. Mokolo, la tâche n'est pas très facile, l'aspect dialogue est diversement perçu par la classe politique congolaise et ça pose problème.
Mais l'aspect dialogue est diversement perçu, pourquoi ? Parce que il y a une frange de l'opposition qui dit que ce n'est pas à Joseph Kabila de convoquer le dialogue. Ça, c'est une aberration, mon confrère Alain Rung. C'est en tant que responsable, c'est pas comme ça. Même Ban Ki-moon lui-même reconnaît l'autorité de Joseph Kabila comme chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Ce n'est pas à Ban Ki-moon de se réveiller un matin de convoquer le dialogue. Vous vous souvenez du travail abattu par Saïd Djinit, il a consulté la classe politique il y a quelques années, il est allé faire le rapport à Ban Ki-moon. Et Edem Kodjo est arrivé avec le mandat de la commission de l'Union africaine, même si l'Union africaine travaille en collaboration avec les Nations unies, il a fait le même travail, il a fait les rapports acquis des droits. Et Ban Ki-moon lui-même, cette fois-ci, est descendu sur terrain. Il a dit aux acteurs politiques, surtout ceux qui hésitent encore, de venir au dialogue. Et ils disent que non, vous savez que les blocages, c'est Joseph Kabila qui est le blocage, et lui n'est même pas concerné par ce dialogue. J'ai suivi Gabriel Kyungu à Kumanza pour ne pas les citer. Il a dit que non, les blocages se situeraient au niveau du président de la République. C'est lui le problème, il ne doit pas être impliqué dans les dialogues. Ça, c'est encore une aberration de la classe politique. Donc là, ça dénote une haine vis-à-vis de notre chef de l'État. Joseph Kabila Kabang est le chef de l'État de ce pays. Et c'est à lui de convoquer le dialogue. S'ils ont des problèmes à soumettre, s'ils ont des difficultés, ils viennent les poser au sein du dialogue. Il n'y a que Joseph Kabila qui peut signer une ordonnance portant convocation des dialogues nationaux inclusifs. Et Ban Ki-moon d'ajouter ici que les dialogues doivent unir et non diviser. C'est ce que Ban Ki-moon avait dit. Mais et comme ils ont manifesté une haine envers une personnalité, face à une personnalité, ils ne voient pas
l'institution présidente de la République, ils voient la personne de Joseph Kabila et ils ne peuvent jamais, accepter tout ce que Joseph Kabila a été proposé. Les dialogues ont été demandés par l'opposition depuis des années et Joseph Kabila a essayé de matérialiser parce qu'il a l'écoute de toute la classe politique. Et
aujourd'hui, à l'époque, la majorité disait qu'elle ne voyait pas l'opportunité de ces dialogues et c'est maintenant vice-versa.
Non, le problème c'est qu'il y a nécessité de dialogue.
On joue un peu au chat et à la souris.
Ça a été démontré par toutes les tendances, dirais-je. Même la société civile dit qu'il faut qu'il y ait dialogue pour que qu'on arrive à un compromis. Parce que le retard enregistré dans l'organisation des élections, c'est pas seulement attribué à la majorité. Il y a aussi l'opposition.
Merci.
Quand Maluma a publié le calendrier électoral, ils ont dit qu'il faut un calendrier global.
Merci.
Et ça nous a pris du temps. Et aussi, ils ont insisté sur qu'on enrôle les nouveaux majeurs. Et ça nous a pris du temps. Et aujourd'hui, ils se rebiffent pour dire que non, c'est le Joseph Kabila maintenant qui constitue un problème. Nous devons arriver à un dialogue, à un compromis politique pour que cette fois-ci qu'on ait aux élections sans que le sang des Congolais ne coule.
Dona Moussema, faudrait-il que quelqu'un descende du ciel pour mettre la classe politique congolaise d'accord? Vous avez suivi cette interrogation de J.R. Mokolo.
Justement, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que les Congolais ne sont pas à même de trouver solution à leurs problèmes? Est-ce que la classe politique congolaise ne peut pas vraiment trouver solution à tous ces problèmes? C'est vrai, nous avons suivi le secrétaire général de l'ONU, qui appelle au dialogue, qui appelle les Congolais à respecter les délais et tout. Mais tant qu'il n'y aura pas volonté politique, je pense qu'il peut beau dire, il peut beau faire, mais le problème revient essentiellement à la classe politique congolaise, qui doit comprendre qu'elle doit d'abord privilégier les intérêts des Congolais. Et privilégier les intérêts des Congolais, c'est notamment respecter tous les textes et les lois que nous avons, qui sont restés comme des œufs, toute la loi fondamentale, la constitution, etc. etc. Donc, il ne faudrait pas qu'on comprenne mal le message de Ban Ki-moon. C'est un bon message, c'est un appel, mais il n'a pas de contraintes judiciaires ou juridiques pour l'instant à imposer pour que son vœu soit exaucé. Et c'est à ce niveau-là où j'en appelle à la volonté politique. Or, visiblement, c'est comme s'il n'y a pas cette volonté politique pour décrisper les choses.
En parlant de volonté politique, je présume que vous faites allusion et à la majorité et à l'opposition pour décrisper la situation.
Bon, la volonté politique essentiellement, je pense que c'est du côté de la majorité où la solution devrait venir. Parce que si vous parlez des élections, on sait qu'on les a eues en 2006, il n'y avait pas eu de problème. En 2011, c'est vrai, il y a eu quelques problèmes. On a dit qu'il fallait dialoguer. C'est l'opposition qui avait demandé à l'époque le dialogue. Mais on lui avait dit, bon, écoutez, les institutions sont en place, il n'y a pas de crise et tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le même scénario qui est en place. Les institutions sont en place, il n'y a pas de crise. Donc, si on nous amène vers le dialogue et tout ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle des manœuvres dilatoires. Donc, je pense que c'est plus la majorité présidentielle qui doit faire preuve de volonté politique, parce que c'est elle qui est à la commande. C'est elle qui a le destin pour le moment d'organiser les élections et de faire le bonheur des Congolais. Voilà ce que je pense.
J.R. Mokolo, Ban Ki-moon appelle les Congolais au dialogue, mais insiste en même temps sur le respect des délais constitutionnels. Les deux assertions peuvent-elles aller ensemble?
Ça peut aller ensemble. Alain Ronk, permettez avant que je puisse prendre en charge votre question, quand même que je puisse réagir par rapport à ce que mon confrère de la RTNC a dit, Claude Molicho KMB, quand il dit que c'est la faute à l'opposition aussi, soit à la société civile, pour la non-tenue des élections à la date chue. Je me rappelle le 25 octobre, il était prévu les élections provinciales. Les candidatures ont été déposées. Les cautions ont été payées. Est-ce que Claude Molicho peut nous dire c'est pas la faute à qui que ces élections n'ont pas eu lieu? Donc on assiste là pratiquement à un blocage délibéré, une planification de la non-tenue des élections. C'est ce qui arrive. C'est ce qui fait que les autres, et que ce soit les opposants ou les membres de la société civile, sont réticents. Ils disent non, ils ont bloqué de façon délibérée. C'est comme quelqu'un qui détruit volontairement sa maison et qui demande à ce que les autres membres de la famille puissent venir pour trouver une solution à ce qu'ils puissent avoir une maison. Donc c'est de façon délibérée que ce processus a été bloqué en refusant de donner à la CENI de l'argent. Quand vous dites on a demandé le dialogue en 2013, si on avait accédé à ces dialogues-là, je crois qu'on aurait avancé. On a demandé la révision depuis longtemps du fichier électoral, on ne l'a pas fait. On attend en dernière minute pour qu'on puisse tout régler et on arrive demain à une impasse.
Alors dialoguer et respecter les délais constitutionnels, est-ce que ce n'est pas paradoxal?
Non, c'est pas paradoxal. Les Congolais peuvent se parler. Pour, par exemple, se mettre d'accord sur les calendriers électoraux, est-ce faut-il organiser toutes les élections? Faut-il choisir quelques-unes? Faut-il, par exemple, faire une révision totale ou partielle? Ils peuvent se parler, mais il ne faut pas que ce soit un dialogue formant conférence nationale souveraine où on amènerait tous les villages, les mamans maraîchères, toutes les associations qui vont être créées pour les besoins de la cause et les paiements des perdants. Si, par exemple, comme le GC l'a suggéré, des négociations entre les acteurs principaux pour résoudre, trouver des réponses à toutes ces questions-là. On peut, par exemple, se mettre d'accord pour que, au lieu de préparer les dialogues, qu'on puisse préparer, par exemple, les processus électoraux, faire en sorte que, le peu de temps qui nous reste ici, on révise les fichiers électoraux et on organise les élections. Parce que le risque, c'est quoi? Si on n'organise pas les élections, surtout les élections présidentielles, qu'on arrive à la fin du mandat du chef de l'État, nous aurons un président de fait. Et nous aurons en face de lui des gens qui vont contester sa légitimité. Et là, on est en train pratiquement de disposer notre pays à toutes les formes de violences qui pourront arriver.
Claude Molisso, quelle est la voie de sortie dans ce blocage qui paraît freiner pratiquement toute la nation?
Oui, avant d'arriver sur la voie de sortie, je voudrais un peu réagir face à ce qui est mon confrère J.R. Mokolo vient d'affirmer. Non, il n'y aura pas un président de fait parce que la Constitution elle-même prévoit des dispositions qui concernent la continuité des affaires de l'État au sommet de l'État. Parce que l'article 70, alinéa 2, dit que les chefs de l'État en exercice restent en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Ce n'est pas à extirper, ce n'est pas à enlever dans la Constitution.
D'abord, il faut un président élu.
Alors, laissez-moi parler,
S'il vous plaît, Claude Molisso.
Écoutez, J.R. Mokolo, vous avez parlé de la mauvaise foi, d'autres ont parlé de manque de volonté politique. Non, il y a volonté politique. L'opposition aussi a une part de responsabilité. Quand elle a incité à l'époque de Malumalu, non, il faut réviser les fichiers électoraux. Il faut réviser. On veut réviser. Ils ont dit qu'il faut un calendrier global.
Voilà, je vous ai posé la question de savoir quelle est la voie de sortie. On est dans un blocage, le pays est embourbé. Qu'est-ce qu'il faut pour en sortir?
A été envisagée par toutes les structures internationales et au niveau national aussi. L'OIF a donné des voies de sortie. L'Union européenne, l'Union africaine, Ban Ki-moon. Tout le monde, même le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, il a dit qu'il faut aller au dialogue. Et la voie de sortie, c'est le dialogue national inclusif qui va nous conduire vers un compromis politique parce que l'État, même si j'ai dit que non, on peut réviser le fichier électoral aujourd'hui, parce que la CENI insiste, parce qu'il y a une nécessité de réviser ce fichier électoral pour arriver à un électorat fiable. Et aujourd'hui, on n'aura pas le temps de terminer l'enregistrement des nouveaux majeurs et même de tous les Congolais parce qu'il faudra que tout le monde puisse avoir une nouvelle carte d'électeur. Et arriver à organiser les élections dans les délais. C'est-à-dire qu'on arrivera le 20 décembre 2016, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Parce que SNC, c'est sur l'élection présidentielle.
Alors, Claude Molisso, Ban Ki-moon a également ouvert la conférence sur les investissements dans le secteur privé organisée par les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la RDC puisse avoir sa part à l'issue de ce forum?
Oui, la RDC, c'est le point focal. Ban Ki-moon qui avait même souligné que la RDC reste une priorité pour la région, pour l'humanité tout entière. Parce que il a été démontré, Alain, il a été prouvé que dans cette région, dans cette sous-région de Grand Lac, il y a des ressources considérables. Et il ne faut plus que les gens viennent, comme on a vu à l'époque, un avion atterri à Goma, on entre vers Walikale, vers Massissi, on puise et puis on quitte le territoire avec armes à la main. Non, il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait un investissement, il faut que les capitaux arrivent et ça peut stimuler l'économie et puis créer les emplois pour la jeunesse. Il ne faut pas que la région, la sous-région puisse toujours être instable. Il faut le stabiliser, il faudra la paix et il faudra le développement. Merci. Le développement a commencé et tout le monde est d'accord, apprécie cette initiative de convoquer cette conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs.
Donna Moussema, un commentaire, un mot sur la voie de sortie par rapport à la crise dans laquelle se trouve la RDC en ce moment et comment vous pensez que la RDC peut capitaliser l'organisation de ce forum sur les investissements privés?
La voie de sortie, c'est ce que je disais un peu là avant. Je disais qu'il faut vraiment assez de volonté politique parce que les choses se bloquent parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas débloquer le processus électoral et nous les connaissons. Donc la volonté politique ici joue un rôle très très important. Et cette volonté politique amène le respect de la Constitution en organisant notamment les élections dans le délai. Et tout ça, ça demande donc de la volonté politique. Et c'est ici où on peut penser qu'il faut que le chef de l'État continue de jouer son rôle de pacificateur, comme il avait promis, qu'il continue encore d'œuvrer dans ce sens-là. Je pense qu'il peut débloquer les choses s'il le veut, parce qu'il est l'ultime de tout. Il est le grand de toutes les institutions, c'est tout à fait possible. Et par rapport à la question des investissements, ça revient toujours au même. Il faut qu'il y ait une classe politique sérieuse qui puisse... J'irai par exemple la gestion de tout ce que nous avons comme minerai. Voilà, donc il faut de la volonté politique et il faut tenir compte de beaucoup d'aspects, notamment la gestion, donc la volonté politique et tout ce que nous avons comme ressources et tout ce que nous avons comme infrastructure, à quoi ça nous sert. Est-ce que nous avons des hommes qui animent bien les institutions, que ce soit même au niveau des investissements. Voilà, donc ici, merci. Il faut repenser la question de l'homme, la valeur de l'homme qui dirige le Congo à tous les niveaux, et qu'il n'y ait pas l'impunité. Merci. Voilà, un peu la voie de sortie.
Merci. J.R. Mokolo, quelle est votre voie de sortie avant de parler également de la conférence sur les investissements?
Oui, la voie de sortie, je crois, je vais me référer seulement à un membre de la majorité présidentielle, Chérubin Okende, qui a publié, je crois, en janvier, un ouvrage intitulé « Leadership et géopolitique en RD Congo, l'audace est une révolution substantielle ». Et là, il recommande la voie de la sagesse au chef de l'État. Il estime que c'est lui le garant de la nation qui devra en tout cas sonner pratiquement la récréation dans sa famille politique en disant à ses sociétaires que moi, Joseph Kabila, je ne serai pas candidat, nous devons nous préparer à avoir quelqu'un d'autre qui pourra nous représenter pour que nous puissions conserver le pouvoir et faire en sorte, comme le roi Salomon avait conseillé aux deux dames, faire en sorte que le président travaille pour que les délais constitutionnels soient respectés et qu'à la fin de son mandat, il y ait des élections et qu'il y ait en tout cas une passation civilisée d'Ixit la mère Meno Malanga des pouvoirs entre lui et le président qui sera élu. Parce que choisir la voie, par exemple, du dépassement des mandats, nous risquons d'arriver à la situation de Mobutu de 91 où, après la fin de son mandat, le président a dirigé par défi et il a été contesté.
Merci. Un mot sur les investissements.
Sur les investissements, je crois que c'est une bonne initiative, mais nous devons en tout cas encourager l'investissement dans notre propre pays. Il faut qu'il y ait des investisseurs congolais aussi. J'ai parié avec vous, Alain Irung Moshige, qu'on donnerait 5 000 $ à un Congolais et 5 000 $ à un Indien ou Libanais. Le Congolais va s'acheter une Jeep, va s'acheter des maisons et multiplier le nombre de femmes. Mais lui, l'Indien et le Libanais, va monter une entreprise.
Merci.
Et qui va employer des Congolais.
Merci. Nous
donc
allons aborder...
Donc, il faut créer l'esprit d'investissement dans les chefs de Congolais.
Merci. Nous allons aborder notre deuxième thème. Il nous reste moins de 15 minutes. L'opération de dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces s'est clôturée samedi dernier. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a affirmé que 135 dossiers avaient été déposés à la CENI. On écoute professeur Onésime Koukatoula au micro de Paul Matendo.
De manière globale, la CENI a reçu 203 formulaires d'inscription de candidatures et 81 formulaires ont été retirés par les partis politiques, 10 par les regroupements politiques et 112 par les indépendants. S'agissant des dépôts de candidatures, 135 dossiers ont été déposés, dont 37 par les partis politiques, 18 par les regroupements politiques et 80 par les indépendants. Donc, au total, la CENI a enregistré 135 listes de candidatures.
Alors, ce bilan fait voir justement qu'il n'y avait pas beaucoup de candidatures dans beaucoup de provinces. Comment justifiez-vous ces manques d'engouement constatés lors de cette opération?
Non, je pense quand même qu'il y a beaucoup de candidatures parce que vous comprenez que ce sont des grands électeurs. C'est une affaire de ces élections indirectes. Donc je pense qu'il y a quand même un engouement, parce que 135 listes, candidatures, c'est quand même énorme.
Claude Molicho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, également coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces observateurs qui pensent qu'il n'y a pas eu suffisamment d'engouement autour du dépôt des candidatures?
Bah, l'engouement, bon, je ne sais pas dans quel sens, parce qu'il faut voir l'électorat des gouverneurs. C'est pas au suffrage universel direct, ce sont les électeurs au niveau des assemblées provinciales qui élisent les gouverneurs. Alors, je ne sais pas si on veut restreindre l'Angouma, parce que la campagne elle-même électorale va se faire dans un circuit un peu fermé, parce que ce ne serait pas conscientiser les mamans maraîchères ou soit les papas cultivateurs, non. C'est bien ciblé, c'est là où on va battre campagne. C'est ça, je pense qu'avec 135 listes, et je crois bien du côté de la majorité comme du côté de l'opposition, il y a eu des candidatures, et parce qu'on ne peut pas envoyer par exemple deux ou soit cinq ou quatre candidats pour une province. Il n'y aura qu'un gouverneur et un vice-gouverneur, et on a aligné deux par chaque famille politique, et c'est un peu suffisant.
Comment vous expliquez, par exemple, le fait qu'il y ait 80 indépendants et 37 partis politiques? C'est un peu paradoxal.
Bon, il y a des gens qui disent que non, ça ne sert à rien d'y aller parce que si on y va, on est perdant. Ils se sont dit, non, ils se sont dit qu'on se réserve. Mais il y a des gens qui ont dit que non, nous sommes sûrs de notre électorat, on va gagner et ils sont allés.
Et ils préfèrent se présenter comme indépendants et pas sous la casquette d'un parti.
Mais les partis politiques, oui.
Gérard Mokolo, vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet de Kinshasa. Claude Molicho dit qu'on n'a pas posé la question sur l'engouement parce que ça va. L'élection n'est pas au suffrage universel, ce sera dans un circuit fermé. Quelle est votre perception?
D'abord, cette élection était prévue l'année passée. Et pour des raisons inavouées, difficiles en tout cas à comprendre, on n'a pas tenu ces élections-là. Des gens qui avaient déjà déposé leurs candidatures, je crois que, bon, peut-être ils n'ont plus confiance. Et puis, deuxièmement, vous savez que ceux qui vont être élus, je ne sais pas s'ils vont rester combien de temps à la tête de ces provinces-là, parce que si on respectait les délais constitutionnels, donc c'est pratiquement au plus tard en novembre qu'on aura élection, donc ces gens-là ne resteront pas. Donc il n'y a pas vraiment un grand enjeu. Et puis, pour la campagne électorale, c'est une campagne sonnante et trébuchante, donc c'est en fonction de l'épaisseur de votre porte-monnaie que vous serez élu, et surtout ces députés provinciaux qui ont été délaissés, qui sont pratiquement démunis, donc je crois que c'est en fonction de votre capacité à suffisamment corrompre que les gens vont se faire élire, et peut-être il y aura aussi des mots d'ordre. Donc,
pas mobilisé, mais suffisamment corrompre.
Oui, suffisamment corrompre, je sais ce que j'ai dit parce que vous rappelez par exemple dans une capitale comme Kinshasa qui était acquise au MLC. Vous avez vu que ce n'était pas un candidat du MLC qui l'avait emporté.
Dona Moussema, vous êtes directeur général de la radio Iriba FM, émettant de Bukavu, et point focal de l'Association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Dona, comment vous avez reçu cette clôture des candidatures? Il n'y a que 135 listes qui ont été déposées.
Bon, au début, quand on parlait de ces nouvelles provinces, déjà au début, on disait que il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient, notamment la viabilité de ces nouvelles provinces. On posait déjà des questions sur les infrastructures, les bâtiments, les moyens financiers et tout et tout. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas assez d'engouement, il y a toutes ces questions qu'il faut mettre en contexte, notamment la viabilité donc des nouvelles provinces qui posent problème. Il y a aussi la question de l'opportunité même de membrement des provinces. Donc, est-ce que c'était opportun? Il y a tout ça qui est un peu de doute dans l'opinion, et ça fait qu'il n'y a pas d'engouement aujourd'hui. Peut-être les candidats se disent aussi, bon, la législature est finissante, est-ce que, bon, on va faire combien de temps? Il y a encore toute la question des commissaires spéciaux, qui sont devenus quoi, ils vont devenir quoi, tout ça. Et voilà, d'autres peuples se disent, bon, écoutez, la majorité a tout boutiqué, bon, c'est cette stratégie pour nous amener dans les manœuvres dilatoires. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas assez d'engouement, et les gens disent, bon voilà, on est à la fin de la mandature, de la législature, on peut laisser faire les choses, donc il n'y a pas assez d'enjeux comme le disaient les confrères, et c'est ça ma lecture.
Il y a, par exemple, sur le 35 listes, il n'y a que 9 femmes qui sont vraiment sous-représentées, et plusieurs observateurs pensent que la question du genre n'a pas encore toute sa place en RDC.
Oui, la question du genre, c'est vrai, moi-même qui vous parle, je travaille beaucoup avec les femmes, je suis un homme localement appelé genre ici, donc j'ai toujours voulu que les femmes soient représentées dans les institutions. Tout ce qu'il y a comme mode électoral, les scrutins, les listes et tout, je pense que ça ne favorise pas l'émergence de la femme. Donc, il faut repenser pour qu'on puisse donner à la femme assez de considération. Parce que depuis le départ, la femme n'a pas les mêmes chances que l'homme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon voilà, les femmes ne sont pas nombreuses, bon voilà, elles ne veulent pas. Non. Il y a tout ce qu'il y a comme stéréotype dans nos us et coutumes qui ne favorisent pas l'émergence des femmes. Donc c'est des choses qu'il faut repenser, je pense. Donc on aurait voulu qu'on soit beaucoup plus clément à l'endroit de la femme, qu'on impose par exemple que non, pour chaque candidat, nous avons, si c'est deux candidats, nous n'allons pas prendre les hommes, nous allons prendre les hommes et les femmes, peut-être en tenant compte de l'équilibre homme-femme, genre et tout. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi les femmes à des instances de prise de décision.
Claude Molichaud, 13 provinces sur les 21 n'ont présenté aucune candidature féminine.
Voilà, il y a aussi un problème du côté de nos sœurs ou de nos mamans, et même si elles sont très actives dans des formations politiques, mais elles n'ont pas d'ambition. Il y a rare des femmes qui affichent des ambitions à briguer, elles sont rares.
Ou on ne les aide pas à bien formuler leurs ambitions.
Et tout à fait. C'est aussi un problème au niveau des familles politiques. Il y a aussi des problèmes de compétences aussi. On ne dit pas que toutes les femmes ne sont pas compétentes. Non, il y a des femmes, vraiment des femmes de tête, des femmes compétentes. Mais la majorité, il faut prendre... On ne peut pas aligner quelqu'un pour animer une province parce qu'on est femme, mais il faut équilibrer 50%, 50% comme on dit, ou 30%, 70%. Non, il faut prendre des femmes qui sont capables, les femmes qui... Parce que gérer toute une province, c'est pas facile. C'est toute une nouvelle province.
Alors, comment vous entrevoyez l'avenir de ces nouvelles provinces avec cette élection? Il y a beaucoup de questions autour du mandat de ces futurs gouverneurs, la gestion, les problèmes de rétrocession, d'investissement. Comment vous entrevoyez l'avenir?
Oui, Alain Roux, moi, j'ai une suggestion à faire sur ce genre-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une dynamique du dialogue national inclusif. Et dans cette dynamique de dialogue, si on arrivait à un compromis politique, dans ces compromis politiques, il y aura un petit calendrier, un nouveau calendrier de la CENI. Même la CENI elle-même avait dit qu'il faudra un nouveau calendrier. Et dans ces calendriers, il faudrait commencer par la base. Il ne faut pas commencer par les sommets, comme disent les politiciens de l'opposition, qui disent qu'il faut commencer par la présidentielle, il faut commencer tout par... Parce qu'ils disent qu'il faut que Kabila parte. Non! Ou même si Kabila partait aujourd'hui, l'opposition ou bien un acteur de politique de l'opposition arrive à la magistrature suprême comme président de la République, comment va-t-il gérer s'il n'a pas la majorité au Parlement? Il va encore dissoudre le Parlement.
Et en guise de conclusion,
il faut commencer par les élections locales, on monte vers les provinciales, on monte vers les législatives et on arrive à la présidentielle. Voilà la logique que moi j'estime qu'on peut y aller parce que nous ne pouvons pas encore créer une crise après avoir sorti dans une crise ou soit créer des problèmes après avoir trouvé un compromis politique ou un dialogue.
Merci. Gilles Mokolo, conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir des nouvelles provinces?
Oui, en tout cas, ces nouvelles provinces auront des difficultés et parce que ça n'a pas été bien préparé. Et je suis convaincu qu'on va avoir des ministres qui vont marcher à pied, qui n'auront même pas où travailler ou habiter. Donc ça va être un peu difficile. Et que tous ceux qui prétendent tous se battre pour ces postes-là, qui ne croient pas qu'ils vont se retrouver dans le paradis terrestre, ça va être difficile pour eux parce qu'ils auront pratiquement tout à refaire.
Donna Moussema, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir des nouvelles provinces?
Je suis tout à fait dans la peau de JR qui pense exactement qu'il y a eu un problème de viabilité des nouvelles provinces. Beaucoup de problèmes vont se poser, les moyens financiers, le budget, les fonctionnements, les services. Et voilà, il y a une fragilité des institutions, ça va occasionner aussi des conflits. La répartition des ressources entre les entités territoriales et centralisées, bon, c'est tout ça. Donc je pense qu'il y a eu tâtonnement, il y a eu des précipitations sur le plan politique et ça va coûter cher, mais on ne prédit pas le mal. On va laisser les temps au temps, mais je pense qu'elles auront du pain sur la planche avec la configuration politique actuelle.
Merci chers confrères d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse de ce jour est terminée. Réalisation Kéline Couté, mise en onde Mimi Kindou, supervision Julien Yamouini, présentation et coordination Alain Hirung-Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.